Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. On est ensemble jusqu'à 9h temps universel avec dans 30 minutes vos réactions. Nous parlerons tout à l'heure du Togo où une nouvelle ère politique s'est ouverte samedi. Le pays a basculé dans la 5e République et conformément à la réforme constitutionnelle, eh bien Fornia Simbé n'est plus président de la République mais président du Conseil des ministres. Un changement de fonction qui lui permet tout de même de conserver l'essentiel des pouvoirs. Le président de la République, lui, a désormais un rôle essentiellement honorifique. En tout cas, cette réforme est vivement contestée par l'opposition et par une partie de la société civile qui dénonce une manœuvre pour permettre à Fornia Simbé de se maintenir indéfiniment au pouvoir, d'autant que la fonction de président du Conseil n'est pas concernée par la limitation des mandats. Le sujet ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous appeler du Togo. Vous aurez la parole évidemment dans une trentaine de minutes. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec des questions sur l'Afrique du Sud, où des victimes de l'apartheid attendent toujours justice. Bonjour Latif.
Bonjour Juan, bonjour à tous vos auditeurs.
Soyez le bienvenu, merci de votre fidélité. Quelles sont vos questions ?
Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, une commission d'enquête a été créée pour comprendre pourquoi beaucoup de crimes n'ont jamais été jugés. Est-ce que cette enquête ne va pas être complexe à mener au vu du temps écoulé ?
Effectivement. En tout cas, cette commission d'enquête, elle a été annoncée la semaine dernière par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Bonjour Claire Bargelès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, correspondante de RFI à Johannesburg. Effectivement, expliquez-nous comment trois décennies après la fin de l'apartheid, les enquêteurs vont s'y prendre.
Alors tout d'abord, il faut bien préciser que cette commission ne devrait pas enquêter directement sur les dossiers de l'apartheid laissés au fond des tiroirs, mais bien sur les raisons qui expliquent que la justice n'a pas fait son travail. Et ça ne remonte pas à si loin. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour vers le passé. En 1998, après plus de 2 ans de travail, la fameuse commission Vérité et Réconciliation présidée par Desmond Tutu remettait ses conclusions. Son but était de recenser toutes les violations des droits de l'homme entre 1960, soit le massacre de Sharpeville, et 1994, soit l'élection de Nelson Mandela. Et pour encourager les coupables de crimes à venir dévoiler la vérité, notamment lors d'audiences publiques, cette commission pouvait en échange accorder des amnisties. En revanche, ceux qui n'ont pas obtenu d'amnistie auraient dû ensuite être poursuivis par les tribunaux et ça concernait environ 300 dossiers.
Oui, 300 dossiers, sauf que seule une poignée d'entre eux se sont depuis traduits par des procédures, des poursuites.
Oui, et c'est sur ce point que doit enquêter cette nouvelle commission. Même si l'on n'a pas encore la description exacte de son mandat, elle devrait déterminer si ce manque de justice est dû à la lenteur habituelle des tribunaux sud-africains, à un manque de ressources ou de compétences, ou encore à des blocages volontaires. Il s'agit donc d'une temporalité beaucoup plus proche de nous, puisque les soupçons planent principalement autour des administrations Mbeki et dans une moindre mesure Zuma, soit dans les années 2000-2010.
Ouais. Mais pourquoi y a-t-il, Claire Bargelès, des soupçons d'interférence politique ?
Eh bien, il y a eu différentes accusations ces dernières années. Il y a eu un ancien haut cadre du parquet ainsi que d'autres collaborateurs qui ont dénoncé à plusieurs reprises des blocages de la part de l'exécutif, les empêchant de faire correctement leur travail. En 2021, c'est la Cour suprême d'appel du pays qui émettait aussi des soupçons, ce qui a été suivi de la rédaction d'un rapport rendu public l'année dernière et qui recommandait que la question soit davantage creusée. Et enfin, dans un communiqué publié un peu avant la mort de l'ancien président Frédéric de Klerk, sa fondation évoquait également un accord informel passé entre l'ANC et des figures de l'ancien régime pour empêcher les poursuites qui auraient pu éclabousser les deux camps. Donc toutes ces accusations, l'ancien président Thabo Mbeki les rejette en bloc, reportant la faute sur le parquet sud-africain. Et cette nouvelle commission d'enquête sera donc la bienvenue pour y voir un peu plus clair.
À suivre donc. Vous avez une autre question, Latif ?
Quelle famille des victimes avec cette enquête ?
Pardon, on n'a pas entendu le début de votre question.
Qu'espèrent les familles des victimes avec cette enquête ?
Ah, d'autant que c'est grâce à la pression des familles des victimes, Claire Bargelès, que cette nouvelle commission a vu le jour.
Oui, tout à fait, puisque c'est suite à une action en justice de ces familles que le président Cyril Ramaphosa a pris cette décision. Alors, beaucoup espèrent connaître la vérité sur ce qui s'est passé et ce qui s'est joué en coulisses, à défaut de pouvoir obtenir justice, car nombre de suspects sont désormais décédés. Ces familles estiment aussi que le pays tout entier a le droit de savoir, d'autant plus que ce système de commission vérité-réconciliation, il a été par la suite présenté comme un modèle répliqué dans le monde entier. Depuis le premier mandat de Cyril Ramaphosa, il y a eu quand même plusieurs réouvertures d'enquêtes et de procès qui ont enfin démarré, et certaines victimes peuvent également espérer obtenir des réponses sur la mort de leurs proches de ce côté-là. Enfin, ce collectif ne compte pas abandonner son recours en justice pour réclamer des dommages et intérêts pour près de 8 millions d'euros afin de financer toutes ces procédures ainsi que des événements commémoratifs.
Merci infiniment. Claire Bargelès, correspondante de RFI en Afrique du Sud. Latif, êtes-vous satisfait? A-t-on répondu à vos deux questions?
Merci et merci à l'éclairage de Claire.
Bonne journée à tous les deux. 10h17 à Paris, on repasse très vite au standard avec d'autres questions à la rédaction. Hadi nous a envoyé des questions sur nos réseaux sociaux, sur WhatsApp. Il est à Kaye, au Mali. Bonjour Hadi.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à toute l'équipe d'Appel, c'est la culture.
Et vous suivez de près l'actualité justement. Vous avez des questions sur le regain de tension entre la Chine et le Japon.
Les deux pays s'accusent mutuellement d'intrusion dans leur espace aérien au-dessus de 2018. Alors, M. Wan, j'ai deux questions.
Oui, éloignez peut-être le combiné de votre bouche, sinon le son sature. Quelles sont vos questions?
Pourquoi ces îles sont-elles source de tension?
Ah, des îles. Des îlots, j'ai envie de dire. Ce sont 8 îlots administrés par le Japon, mais revendiqués par la Chine. Bonjour, Claire Broderst.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondante permanente de RFI à Pékin, expliquez-nous pourquoi cet archipel de 7 km² est source de tensions entre la Chine et le Japon.
Eh bien, les îles Senkaku ou Diaoyu pour la Chine sont au cœur d'un différend qui date entre les deux pays, qui est nourri à la fois par des enjeux stratégiques, économiques et symboliques. C'est-à-dire qu'elles sont situées entre Taïwan et Okinawa et elles se trouvent dans un corridor maritime vital. Et leur contrôle permet d'étendre sa zone économique exclusive avec accès aux ressources de pêche, aux routes commerciales et à une présence militaire renforcée. Et pour Pékin, eh bien, cette question touche à la souveraineté, au nationalisme, au rejet de l'ordre colonial. Les îlots, comme vous le disiez, sont aujourd'hui devenus, si vous voulez, un symbole de projection de puissance. Et leur statut n'est pas qu'une affaire bilatérale, car les États-Unis, qui sont liés au Japon par un traité de défense, ont affirmé que ces îles relevaient de leur engagement sécuritaire. Et ce ne sont pas leurs tailles, qui sont, vous le disiez, elles sont minuscules et inhabitées, qui ont fait un enjeu brûlant, mais surtout ce qu'elles incarnent, c'est la légitimité, les ressources et surtout l'équilibre militaire en Asie-Pacifique.
Et ce ne sont pas les seules îles disputées par la Chine dans la mer de Chine méridionale.
Non, non, loin de là. Au contraire, la Chine revendique presque toute la mer de Chine méridionale via une ligne imaginaire appelée la ligne en 9 traits qui mord largement sur les zones économiques exclusives des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie, de Brunei et bien sûr de Taïwan. Alors pourquoi tant d'intérêt? Eh bien parce qu'un tiers du commerce maritime mondial, qui va jusqu'à 5 000 milliards de dollars par an quand même, eh bien ce commerce transite par ces eaux territoriales et parce qu'elles regorgent de gaz, de pétrole et de poissons. Et alors la Chine y a construit des îles artificielles, des bases militaires et elle affirme sa présence via des gardes-côtes et ses flottes de pêche. Et alors en contrepartie, les États-Unis de leur côté mènent régulièrement des opérations de, je cite, « liberté de navigation » pour contester justement ces revendications chinoises. Mais face à ces tensions, un problème demeure, c'est que l'Asie du Sud-Est est divisée, ce qui complique toute réponse collective.
Ouais. Restez avec nous, Claire Broderst. Hadi a une dernière question à vous poser. On va tendre l'oreille car le réseau téléphone n'est pas très bon avec Kaye, mais on est toujours ravis évidemment d'avoir des auditeurs du Mali. Hadi, votre dernière question?
Quelles peuvent être les conséquences de ces accusations mutuelles?
Oui, accusations mutuelles. Je rappelle, Claire Broderst, que Tokyo et Pékin s'accusent effectivement mutuellement d'avoir violé ces derniers jours l'espace aérien de ces petites îles. Quelles peuvent être désormais les conséquences?
Alors, ces accusations, elles sont assez récurrentes entre la Chine et ses voisins, donc là, vous le soulignez, comme le Japon, et ça peut entraîner des conséquences diplomatiques, militaires et économiques assez lourdes. Un simple incident, c'est-à-dire une collusion ou un tir d'avertissement, eh bien, ça peut dégénérer, notamment à cause de la pression nationaliste ou de l'agitation médiatique. La coopération commerciale et touristique, eh bien, elle en souffre, et l'opinion publique qui se durcit rend tout compromis plus coûteux. Et ces tensions pèsent aussi sur la sécurité régionale. Elles fragilisent les mécanismes de désescalade des groupes comme l'ASEAN, par exemple. Et elles peuvent accélérer les courses aux armements, forcer des pays à choisir leur camp entre les deux et approfondir, du coup, eh bien, la polarisation régionale. Et enfin, ça a des impacts économiques qui peuvent être à prévoir, c'est-à-dire des ruptures d'approvisionnement, des chutes d'investissement et des campagnes de boycott. Et en fait, le tout qui peut être instrumentalisé parfois par les dirigeants, tout simplement pour rallier leur opinion publique.
Et toutes ces disputes, elles ont évidemment des conséquences dans tout le Pacifique.
Et oui, parce qu'en fait, elles redéfinissent, si vous voulez, l'équilibre régional. Plusieurs pays comme le Japon, les Philippines, le Vietnam ou l'Australie, eh bien, très récemment, ont réaugmenté leur budget militaire et renforcent leur capacité navale. Donc le Pacifique, si vous voulez, devient une zone hautement militarisée où la moindre erreur eh bien, peut faire basculer la situation. Et ces tensions ont aussi favorisé la création ou bien le renforcement d'alliances dans le Pacifique, plus une présence américaine accrue aux Philippines ou à Guam, par exemple. Et ces dispositifs vise à contenir la Chine, il risque aussi de figer les blocs géopolitiques parce qu'en fait, le refus de Pékin de se plier aux décisions internationales affaiblit le droit international. Et ce précédent pourrait inspirer d'autres puissances révisionnistes. Et enfin, si une crise éclate dans ce Pacifique, un conflit localisé, un blocus ou une escalade un peu plus large, eh bien, ce sont les routes commerciales mondiales, les flux d'énergie et surtout les chaînes logistiques globales qui pourraient s'effondrer.
Annie, avez-vous tout compris ? Êtes-vous satisfait des explications de Claire Broadhurst ?
Très bien satisfait. Laissez-moi saluer Margot et Chloé, qui sont vos techniciens là-bas.
Qui sont effectivement en coulisses et qui réceptionnent vos questions au standard de RFI, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Bonne journée, Khadi, et merci de votre confiance à Kai, au Mali. Claire Broadhurst, bonne fin d'après-midi à Pékin, où vous êtes la correspondante permanente de RFI. On repasse au standard avec des questions après l'assassinat, il y a maintenant une dizaine de jours, d'Aboubacar Cissé. C'est ce Malien de 22 ans, tué de 57 coups de couteau alors qu'il priait dans une mosquée près d'Alès, dans le sud de la France. Bonjour Kalilou.
Bonjour Ron, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Cotonou au Bénin et comme plusieurs auditeurs, vous avez des questions justement sur cette actualité qui ne vous a pas laissé indifférent.
Oui, une semaine après l'arrestation du suspect du meurtre islamophobe de notre compatriote le jeune Aboubacar, que savons-nous du profil du meurtrier et de ses motivations?
Alors, vous dites qu'il a été arrêté, soyons plus précis, il s'est rendu de lui-même, hein, il s'est rendu de lui-même à la police en Italie. Bonjour à Wes Seniger.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle. Que sait-on du profil du meurtrier présumé?
À l'heure actuelle, il est difficile de répondre avec précision à cette question. Ce que nous savons, c'est qu'il est d'origine bosnienne, qu'il n'est pas musulman. Et surtout, nous avons des éléments, et c'est peut-être le plus important, des éléments qui entourent le geste terrible, meurtrier qu'il a accompli au sein de l'enceinte sacrée des musulmans, c'est-à-dire la mosquée. Et visiblement, il était animé par une haine, une défiance profonde, meurtrière à l'égard de la religion musulmane.
Oui, il dit aux enquêteurs avoir tué la première personne qu'il a trouvée sur son chemin, qu'il a eu une pulsion morbide, sans préciser qu'il avait envie de tuer forcément un musulman. C'est important de le souligner à Wes Seniger.
Et on peut parler d'une reconstitution ex poste, hein, pardon d'utiliser des termes savants, c'est-à-dire qu'il cherche à se défendre. Dans sa stratégie de défense, il explique en effet qu'il n'avait pas de motivation à caractère raciste ou islamophobe. Mais quand on se rend dans une mosquée, quand on prend le temps de se filmer, avec les mots qu'il a utilisés, il est difficile de passer à côté de la dimension islamophobe. Or, c'est quoi l'islamophobie? C'est une essentialisation négative de l'appartenance réelle ou supposée à l'islam qui peut conduire soit à des paroles désagréables, voire discriminatoires, soit, hélas, à des actes comme celui qu'il a accompli dans cette mosquée.
Ouais, il faut préciser, vous l'avez évoqué à Wes Seniger, c'est qu'après s'être acharné sur Aboubacar Cissé, effectivement, le meurtrier présumé a sorti son téléphone, il a filmé la victime en train d'agoniser, il s'est félicité de son acte et il a insulté la religion musulmane, des propos qu'on ne reprendra pas, bien évidemment, à ce micro. À Wes Seniger, reste avec nous, Kalilou a une question que tout le monde se pose. Allez-y, on vous écoute.
Oui, pourquoi le parquet national antiterroriste ne s'est toujours pas saisi de l'affaire?
Alors ça, c'est une question qui est souvent revenue au standard de l'émission à Ouest Séniguère. La famille, les proches d'Aboubacar Cissé ne cessent de réclamer justement que le caractère terroriste du crime soit retenu, ce qui n'est toujours pas le cas. Pourquoi?
Alors c'est une question technique, mais ça n'amoindrit aucunement le caractère extrêmement grave de l'acte. C'est ce qui a été dit par la procureure. Donc il faut insister sur ce point. Le fait que cette action n'a pas été qualifiée de terroriste, a priori, n'enlève en rien à la dimension gravissime de l'acte. Ça, c'est la première réponse que je ferai. La seconde réponse, et je parlerai prudemment, hein, je n'ai pas tous les éléments et je ne suis pas juriste, il n'y a à ce stade au moins pas de dimension idéologique au long cours qui aurait accompagné le geste. Il n'y a pas de lien avec des organisations établies, toujours à ce stade, et que par conséquent, probablement en raison de l'absence de ces critères distinctifs, il a été décidé de ne pas qualifier le geste en question de terroriste.
En tout cas, une enquête est en cours pour assassinat prémédité, notamment en raison de la religion. Enquête ouverte par le parquet de Nîmes. Merci infiniment à Ouest Séniguère d'avoir été avec nous, maître de conférence à Sciences Po Lyon. Et je remercie Khalilou pour ses questions pertinentes. Bonne journée à vous, Khalilou, à Cotonou. Laurent, bonjour, bienvenue. Laurent, êtes-vous là, Kinshasa, m'entendez-vous?
Oui, bonjour, Juan, merci.
Bah, je vous en prie.
Comment vous allez?
Bah, écoutez, ravi de dialoguer avec les auditeurs comme tous les matins. Quelles sont vos questions, Laurent?
Voilà, j'ai une question. Ça fait longtemps que je n'entends plus parler du conflit entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte autour du grand barrage de la Renaissance. L'Égypte a déposé une plainte en septembre dernier autour auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, activant l'Éthiopie de menacer la stabilité régionale. J'ai des préoccupations.
Oui.
Où en est le traitement de cette plainte et qu'est-ce que fait obtenir l'Égypte?
Bah, elle sert à ça aussi, l'émission, à évoquer des sujets qui ne font plus forcément la une de l'actualité, des sujets qu'on n'aborde pas forcément tous les jours, mais qui continuent à être notamment, pour le coup, source de conflits. Franck Galland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la géopolitique de l'eau. On rappelle que ce barrage est un projet crucial pour l'Éthiopie. Il est considéré comme la plus grande construction hydraulique d'Afrique. L'Éthiopie attend que le barrage soit effectif. Hein, c'est une question de semaines, voire même de mois. En revanche, expliquez-nous déjà pourquoi, Franck Galland, pourquoi l'Égypte il voit une menace directe pour la sécurité du pays.
Alors, ce barrage, depuis son commencement, c'est-à-dire dès lors que la première pierre est posée en 2011, alors que les rues du Caire sont en proie au plus grand chaos, le président Moubarak vient d'être destitué. En tout cas, ce barrage qui s'appelle Renaissance en Éthiopie est vu comme un problème de sécurité nationale pour l'Égypte. 95% de la population égyptienne vit sur les rives du Nil. Cette population est une population excessivement jeune, 60% à moins de 30 ans. Cette population atteint les 112 millions de personnes aujourd'hui et clairement le président Sissi doit faire face à une bombe démographique. Cette population, il faut la nourrir et il faut lui donner de l'eau. Et quand vous savez aujourd'hui que l'agriculture égyptienne est excessivement dépendante du Nil, l'Égypte est en insécurité alimentaire, elle importe 60% du blé qu'elle consomme, autant vous dire que le Nil est plus que jamais une artère fémorale pour la société égyptienne. Et depuis les projets de construction de ce barrage en territoire éthiopien et son prochain accomplissement, comme vous l'avez souligné, l'Égypte vit avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et fait de ce barrage un problème de défense et de sécurité collective. Et le Caire ne saurait absolument pas accepter une baisse du débit du Nil. Ouais.
Et c'est pour ça que l'Égypte a écrit au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer les agissements de l'Éthiopie. Malheureusement, on est pris par le temps, mais on répondra évidemment à la question de Laurent demain.